Les jeudis soirs, de 21h à 23h, 2 heures de la meilleure musique électronique à Québec. Sur les ondes de CKIA FM 88.3, c'est Résonance.
Cinéphonie présente.
Scène 10. Mer.
Extérieur.
Tempête,
désert.
Extérieur jour.
Martha rentre.
Les portes du train s'ouvrent.
Maxime se déborde sous l'eau dans les profondeurs de l'océan.
Il pointe une étoile en regardant les arbres dans les yeux.
Il donne un cheveu et plume noire.
Cinéphonie. Une création numérique unique. Présentée par Spira. Consultez les œuvres gratuitement au cinéphonie.com.
Bonjour, ici Marlène Bordelot. Voici vos nouvelles du mercredi 4 mai 2022. La traditionnelle soirée bénéfice de premier acte est de retour cette année après 2 ans de pause pandémique, le 15 mai prochain au Musée de la Civilisation. Cet événement vient clore la campagne de financement de ce diffuseur théâtral de Québec dédié à la relève. Au programme, un cocktail dans le grand hall du musée, un repas signé Montego, suivi d'un spectacle de théâtre à risque où une équipe improvisera une pièce à partir d'un thème de départ. Le public pourra par la suite orienter le développement de l'histoire. L'animation sera assurée par le comédien Paul Fruteau de Laclos. Le spectacle mettra en vedette Laura Amar, Frédéric Bradet, Charlie Cameron Verge, Nicolas Drolet, Jean-Michel Giroir et Denis Marchand. Pour plus d'informations, pour participer à la campagne de financement ou pour acheter vos billets, visitez le site premieracte.ca. C'est aujourd'hui qu'aura lieu le lancement du projet pilote de tribunal spécialisé en matière de violences sexuelles et de violences conjugales au Palais de justice de Québec. Le projet pilote apporte plusieurs changements visant à mieux répondre aux besoins et réalités des victimes de ces violences, entre autres au niveau de la sécurité des aménagements et l'aménagement de dispositifs d'aide au témoignage. Les personnes victimes se verront mieux soutenues et accompagnées et des personnes seront attitrées à leur dossier afin d'éviter d'avoir à répéter leur histoire. Tous les acteurs et actrices travaillant au tribunal spécialisé seront par ailleurs formés et outillés afin de comprendre la réalité des personnes victimes et répondre à leurs besoins. Ce projet pilote permettra d'implanter les meilleures pratiques et d'évaluer les retombées du modèle de tribunal spécialisé dans différents contextes avant de le déployer partout au Québec. C'est aujourd'hui 4 mai qu'aura lieu le vernissage de l'exposition Land Back, conçue par la Biennale d'art contemporain autochtone. Land Back fait référence à la mobilisation des Autochtones pour regagner l'intendance des terres et des écosystèmes traditionnels avec l'objectif de les préserver pour les générations à venir. Cette édition, dirigée par le commissaire Michael Patton, vous permettra de voir des œuvres de Roxanne Charles, Lisa Jackson, Pat Kane, Jacob Meathers et Kerry Newman. Vous pourrez d'ailleurs rencontrer l'artiste Jacob Meathers lors du vernissage dès 17h30 ce soir à la Maison des Jésuites, située au 2320 Chemin du Foulon à Québec. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en me disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues.
Bonjour et bienvenue à l'émission de Jordan et Parrot sur les ondes de C'est quand il y a une femme et à Québec et également sur Facebook Live avec le site Jordan et Parrot. Je m'appelle Larry Hodgson et je vous rejoins dans mon sous-sol comme d'habitude à chaque semaine pour parler de jardinage. Cette semaine, j'ai comme 2 sujets qui m'ont été suggérés par mon collaborateur Michel Bédard qui est beaucoup plus au courant des choses dans le monde véritable que moi. Il n'est peut-être pas d'accord, mais moi, je pense que oui. Mais il a vu ce matin 2 choses. Salut, bonjour, oui. Moi, je n'écoute pas la télévision le matin. Moi, je travaille. Non, je n'ai pas vu ça. Mais il a dit, il y avait des, il parlait de problèmes avec des abeilles, pas assez d'abeilles pour polliniser des fruitiers, notamment pour les bleuets dans le lac Saint-Jean, les autres fruitiers. Et c'est quand même quelque chose qui nous touche en tant que jardiniers, parce que les abeilles aussi viennent polliniser nos fleurs de plates-bandes, de nos légumes, et surtout pour plusieurs légumes et fruits, on en a besoin. C'est des abeilles pour ça. Maintenant, je voulais juste démêler les choses un petit peu. Parce que les gens ne saisissent pas toujours que quand on dit qu'il y a un problème avec les abeilles, ici. Ce qu'on veut dire, ce n'est pas les abeilles de toutes sortes. On parle spécifiquement de l'abeille domestique, l'abeille qui prend le miel. Et il faut quand même comprendre, ce n'est pas un insecte indigène, c'est un insecte introduit. C'est un insecte qui vient de l'Europe, de l'Asie, peut-être de l'Afrique aussi, mais qui n'est pas indigène ici. Donc, c'est un milieu un peu artificiel qu'on crée. Donc, quand on parle d'abeilles, à miel, tout ce qui concerne ça, il ne faut pas prendre ça comme étant nécessairement quelque chose de super écologique comme tel. On les maintient souvent avec des traitements aux pesticides pour tuer les mites et les autres qui les dérangent. Donc, OK, c'est limite au niveau écologique. Et surtout, quand il y a beaucoup d'abeilles domestiques, ce n'est aux abeilles indigènes. Donc, on a quand même un conflit. Je ne pense pas qu'il y ait une solution facile à ça. Je comprends que les gens veulent avoir du miel. Et moi aussi, j'aime le miel. C'est parfait, c'est naturel. Mais on aimerait avoir du miel sans nécessairement nuire aux insectes d'ici. Ça, ça devient... Qu'est-ce que c'est qu'on peut faire avec ça? Bon, ça ne veut pas dire comme directement qu'il y a un problème pour les abeilles ici, mais il y en a un quand même. Et l'un des problèmes, c'est l'abeille domestique qui prend trop de place. Donc, quand on veut soutenir les abeilles, ce n'est pas nécessairement l'abeille à miel qu'il faut penser. Dans nos jardins, nous, c'est les abeilles d'ici. L'une des façons, c'est de planter plus de plantes indigènes, les plantes qui sont naturellement pollinisées par les insectes d'ici. Et leur offrir des gîtes, peut-être un hôtel d'abeilles, ça existe, vous allez voir, ou un petit peu d'eau pour boire, petit point pour se cacher, pas faire le ménage tôt au printemps, des choses comme ça qui font énormément de bien pour les abeilles indigènes. Donc, OK, on comprend que les producteurs de miel ont peut-être un problème cette année-ci, et les producteurs de fruits aussi, mais dans nos jardins,
il semble qu'on ait un petit problème avec Larry. Ah, Larry. T'es là, Larry?
Oui, je suis là. Tu m'entends? Okay,
désolé, on a eu un petit souci d'Internet avec toi, là.
OK, est-ce que j'ai manqué... On a manqué tout ce
non,
que
non,
j'ai...
Non, quelques secondes à peine.
OK. Évidemment, moi, je ne sais pas ces choses-là. Je ne fais que jaser de même. Donc, voilà. Donc, l'autre coin... Michel a vu qu'on parlait de l'augmentation des coûts des produits de jardinage et notamment que certains produits restent manqués dans le domaine du jardinage. Et ça fait déjà 3 ans qu'on vit ça, que les producteurs n'arrivent pas à produire assez. Il y a tellement eu de demandes augmentées dans le domaine du jardinage qu'on n'arrive pas toujours, les producteurs n'arrivent pas à nous fournir toujours dans toutes nos semences, etc. Puis on a un gros problème cette année-ci pour les pommes de terre, puisqu'il y a des restrictions sur le déplacement des pommes de terre de semences d'un endroit à l'autre. Donc, il faut quand même penser à ça. Comme beaucoup de gens, j'ai commandé mes semences de bananes cette année-ci, parce que je voyais venir la même chose qu'il y a. Ça fait 2 ans qu'on a le même problème. On a des difficultés à avoir notre matériel. Il ne faut pas tarder, dans le fond. C'est le secret, je pense, pour les jardiniers. Pour moi, quelques années, ça serait faire attention. Voilà pour ça. Et je pense qu'on va aller maintenant aux questions, Michel.
Parfait. Donc, on a Laurence Boucher qui nous dit premièrement bonjour. Elle dit, j'ai planté de l'ail pour la première fois cette année. Dois-je mettre des filets pour contrer la teigne du poireau? Il n'y a jamais eu de plantes dans cette 1000 feuilles à cet endroit. Elle dit, je suis de Lévis.
Écoutez, cet insecte-là, la teigne du poireau, c'est un papillon de nuit qui s'attaque aux plantes de la famille des aliacées. Ça veut dire donc l'ail, l'oignon, poireau, ciboulette, etc. Et ça peut causer beaucoup de dommages. Logiquement, on pourrait dire, écoutez, si vous n'avez jamais cultivé une de ces plantes-là chez vous, ça ne devrait pas avoir de problème. Sauf que cet insecte-là s'est montré particulièrement capable de se disperser dans un peu partout. On ne semble pas avoir la facilité à le contrôler. Donc, peut-être que ce serait une bonne idée, en tout cas, couvre au moins une section juste pour voir si ça fait une différence. Donc, on parle de filet en question. C'est ce qu'on appelle une couverture flottante ou une toile flottante ou une toile anti-insectes. Prenez le nom que vous voulez. L'idée qu'on couvre tôt au printemps avant que les adultes sortent, se mettent à voler et pondre leurs œufs. Et vous placez par-dessus la plante en enterrant sur le bord et là, l'insecte ne peut pas attaquer. Mais moi, je ferais au moins attention à une partie de la récolte juste pour voir, parce que c'est un peu plate quand on cultive l'ail et ça s'est vraiment brisé par cet insecte-là.
Maintenant, la question de Félicia Le. Bonjour, que dois-je faire pour faire fleurir mon bougainvillea?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil. Plein soleil. N'oublie pas que cette plante-là, le bougainvillea, vient des tropiques, presque, près de l'équateur, en tout cas. Et c'est une plante donc qui a besoin d'avoir le soleil. Dans la nature, on le trouve dans des sites, pas une jungle dans le sens humide, etc., mais plutôt où ça sèche l'hiver. Donc, vous avez une période de pluie et une période de l'année où c'est sec. Et les saisons sont plus déterminées par la sécheresse que d'autres choses, parce que le soleil est intense toute l'année. Donc, chez nous, on a un soleil qui dure plus longtemps, c'est bien, mais pas aussi intense. Fait qu'il faut essayer de donner le maximum possible. Pas trop arrosé, parce que c'est une plante qui préfère que ça sèche, qui peut avoir plus d'arrosage, pas au point d'une plante succulente, mais attendez vraiment que ce soit sec avant d'arroser. Sous notre climat, des fois, on n'a pas trop le contrôle. Des fois, c'est la pluie qui fait la différence. Mais on va essayer de ne pas trop en donner et pas trop d'engrais non plus, pas au moins que ça, avant que ça commence à bourgeonner. Parce que c'est une plante qui va faire beaucoup de feuilles vertes si on commence à nourrir trop tôt en minéraux. Donc, juste un peu de restriction à ce niveau-là, mais plein soleil si possible. N'oubliez pas que cette plante-là doit être à l'intérieur actuellement. C'est une plante tropicale. Et quand on va le sortir, pas de bon. Donc, disons au mois de juin, quelque part là. Là, vous pouvez le mettre à l'extérieur, mais pas beaucoup avant ça. Pour pas que cette plante-là soit exposée aux nuits très, très fraîches, pas pendant la saison de la floraison à venir.
Isabelle Carignan maintenant. Bonjour de Sudbury. Je vais partir quelques jours. Que dois-je faire avec mes semis? Leur donner beaucoup d'eau et les mettre à l'ombre? J'ai peur de perdre mes bébés. Je recommence la dernière phrase. J'ai peur que mes bébés meurent.
Oh, mais ça serait bien triste. Et d'ailleurs, c'est l'histoire, je pense, de tous les gens qui font des semis. Parce qu'on planifie tout d'avance et tout d'un coup, oh, j'oublie que fait que je me déplace ou je dois être absent 2-3 jours. Quoi faire? Dans un cas semblable, en général, si vous les recouvrez d'un dôme de plastique, vous mettez les plateaux dans un sac de plastique pendant quelques jours, ça devrait régler le problème complètement. Parce que sous un dôme ou dans un plastique, vous créez un milieu super humide. On appelle ça une culture à l'étouffée. Étouffée veut dire parce que l'air ne circule pas, mais mais ça sèche. Et les plantes perdent probablement quelque chose comme 95% de l'eau que la plante absorbe par les racines va être perdue à l'air. Donc, si vous coupez ça, vous gardez l'air humide, les besoins en eau vont tomber, mais complètement. Donc, faites-le pas trop longtemps si possible, parce que vous ne voulez pas cette couche de plastique est encore une couche qui cache la lumière. Puis on sait que ces plantes-là aiment ça, le soleil. Mais pendant quelques jours, dans un sac de plastique fermé ou sous un don de plastique, vos plantes devraient être parfaitement en bon état. Donc, arrosez-les, peut-être, disons, la veille de partir. Arrosez-les, assurez-vous que ce soit bien humide. Pas excessivement, mais bien humide. Comme ça, il n'y a pas de surplus quand vous allez les couvrir. Donc, disons, 24 heures plus tard, les plantes sont bien, mais le sol est encore très humide. Donc, couvrez. Et là, vous êtes bon pour au moins, vous êtes bon pour très longtemps, mais pour les semis, moi, je dirais peut-être 5-6 jours facilement, sans problème.
Joanne Parent, maintenant. Bonjour, Larry. Que pensez-vous de l'eau du déshumidificateur pour l'arrosage des semis et des plantes?
L'eau du déshumidificateur est une eau presque pure. Hein? Vous comprenez que comme c'était c'est l'eau de l'évaporation qui était condensée, c'est comme ça qu'on crée d'ailleurs l'eau distillée. On peut dire que c'est équivalent de l'eau distillée, peut-être pas aussi parfaitement distillée que dans un système professionnel, mais c'est presque distillé. Donc, à ce niveau-là, c'est excellent dans le sens que vous voulez l'eau qui n'est qui est pas impureté, ce ne serait pas là. Il n'y aurait pas de métaux lourds, pas du tout. Par contre, c'est un eau qui n'a rien du tout. Alors que les plantes aiment ça, un eau qui a quelque chose. Hein. Les quelques minéraux comme l'azote, notamment. Vous savez, la pluie, en général, en descendant du ciel, en traversant le ciel, prend un peu d'azote. Donc, c'est pas l'eau que j'utiliserais tous les jours, mais un eau qu'on peut utiliser des fois, est particulièrement intéressante dans certaines situations où on ne veut pas avoir trop de minéraux. Exemple, les plantes qui aiment un sol acide vont apprécier ça parce que nos eaux des villes, en général, ça vient d'un lac ou ça vient d'un puits. Habituellement, il y a beaucoup de minéraux. C'est assez calcaire ou assez dur. L'eau vote. Ce ne serait pas dur, cette eau-là. Donc, ça peut être intéressant pour ces plantes-là. Pour les plantes aussi, comme les plantes carnivores, qui ne tolèrent pas l'eau calcaire du tout, c'est très, très bien. Pour rincer, nettoyer des plantes, enlever le calcaire, si vous voulez, par exemple, lessiver le terreau, c'est très, très bien. Par contre, ne donnerez pas ça tous les jours aux plantes. Au moins, vous êtes certain que votre engrais que vous avez mis dans le terreau est de qualité et continue à diffuser. Parce que là, n'oubliez pas, il n'y a aucun minéraux du tout là-dedans.
On va y aller maintenant avec une prochaine question. Celle de Sarah Pilon, Savoie. Bonjour, M. Hudson. Merci pour tous vos bons conseils. J'essaie de tout suivre à la lettre. Dans votre article sur le glycine, vous suggérez les cultivars Blue Moon, Hunt D et plus particulièrement le cultivar Summer Cascade. Puisque l'article a été écrit il y a 6 ans, est-ce que vos recommandations ont changé? Des conseils pour l'entretien, la taille, la plantation, etc.
Non, mais conseils n'ont pas vraiment changé. J'ai entendu dire qu'il y avait peut-être maintenant une glycine à fleurs blanches rustiques. Mais j'ai entendu parler de ça, mais je ne l'ai pas vu sur le marché. Donc, ça va peut-être venir. Vous savez, c'est long à produire, hein, les glycines. Ça prend des années. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ça n'a pas peut-être changé beaucoup en 6 ans. Ça prend une éternité de produire des glycines d'une taille intéressante pour la vente. Ça prend 5-6 ans déjà juste là. Donc, c'est peut-être ça. Bon, pour les glycines, vous savez d'abord, ces glycines-là, les glycines en question, Blue Moon, D, Summer Cascade, etc., sont des glycines américaines, qu'on peut dire. Il y a 2 espèces qui viennent des États-Unis. Toutes les autres espèces viennent d'Asie. Les variétés d'Asie sont beaucoup plus spectaculaires. Des longues, longues filets de fleurs, quoi, tu sais, des quadrophostex incroyables. Super beau, magnifique, parfumé comme c'est pas possible. Quand vous voyez des photos de magnifiques glycines, c'est des variétés asiatiques qu'on voit. Mais chez nous, leur rusticité est faible. Pas toujours au point de tuer la plante, mais tuer des boutons de fleurs, oui. Donc, on a des plantes qui fleurissent peu ou presque jamais, pas fort. Alors que les variétés américaines ont l'avantage de fleurir non pas sur le vieux bois, mais sur le bois de l'année. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les variétés asiatiques fleurissent que sur le vieux bois. Ça veut dire que les boutons de fleurs du printemps sont produits l'été précédent. Ça reste caché sur la tige, ça sort au printemps pour fleurir. Mais s'il y a du gel, et il y a du gel chez nous, hein, gel important, les boutons sont tués par le froid. Donc, il n'y aurait pas de fleurs. Il y a des feuilles. Il n'y aurait pas de fleurs. Mais les variétés américaines, ce n'est pas ça. Ces plantes-là produisent des fleurs sous les boutons de l'année. Autrement dit, après que l'hiver est terminé, et peut-être qu'il y a des gars, des manches qui ont été tués ou taillés ou peu importe, on peut tailler encore, ça aurait été trop printemps, parce que c'est les nouvelles pousses de l'année qui vont produire des fleurs beaucoup plus tard dans la saison que les variétés asiatiques. Maintenant, les variétés asiatiques sont doublement impressionnantes parce qu'elles fleurissent avant les feuilles. Donc, on les voit vraiment. Les variétés américaines, non. Les feuilles sont en premier, les fleurs après. Donc, les fleurs sont mélangées aux feuilles. Mais il reste quand même, c'est possible de les cultiver, même en zone 4. Les gens réussissent. Maintenant, autre détail. C'est une plante compliquée, hein? La glycine. D'abord, ça prend du temps avant de commencer à fleurir. Mais les variétés américaines sont plus vite. Donc, souvent, les plantes, ça fleurit même assez jeune. Mais il reste quand même que ça prend quelques années avant que ça commence vraiment bien fleurir. Peut-être 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il y a une bonne production. Côté de plantation, il faut toujours être planté dans un endroit permanent. Pas une plante quand on le dérange. Une sol bien drainé et pas riche. C'est un problème pour les jardiniers parce qu'on n'a pas été enrichir le sol. Hein? Oui, on veut avoir une sol le plus riche possible. Et c'est parfait pour 95% de nos plantes. Puis les 5% qui restent ont des difficultés. Donc, sincèrement, une plante à mettre dans un endroit où vous vous occupez de la qualité du sol. Mettez surtout pas dans les riches les autres. Parce que ça veut vraiment nuire. Donc, vous les négligez. Côté taille pour cette plante-là, comme cette variété-là de glycine n'est pas comme les autres encore. Comme ça fleurit sur le bois de l'année, vous faites taille comme vous voulez. Mais vous le faites tôt, avant que la nouvelle croissance commence, et vous taillez comme vous voulez. Haut ou bas, les tiges courtes, les tiges longues, et vous le laissez pousser. Mais c'est la plante qui décide quand elle va fleurir. Hein. Elle n'est pas toujours si facile à contrôler que ça.
Prochaine question de Martine Joyal. Les feuilles de mes tomates fantastiques roulent, sèchent et les feuilles tombent. Les autres variétés n'ont pas de problème. Est-ce que c'est une variété difficile ou c'est les graines qui ne sont pas bonnes?
Bon, ce n'est pas les graines qui ne sont pas bonnes dans le sens que si ça germe, que c'est que les graines sont bonnes. C'est aussi facile que ça. C'est ça la germination. C'est que ça doit germer. Pourquoi cette variété-là a un problème plus que d'autres? Je ne sais pas. Mais les symptômes que vous mentionnez indiquent d'habitude une sol trop... soit un sol trop sec, un terreau trop sec ou l'air trop sec. Qui sait, peut-être que par mégarde, vous avez laissé sécher une touche plus ces plantes-là que les autres. Mais essayez donc d'augmenter un petit peu l'humidité. Et si ça ne marche pas, écoutez, des fois, il y a des plantes qui ne marchent pas pour nous. On passe à autre chose. La vie est trop courte pour passer à chercher des petites bébites. Vous ne trouverez peut-être jamais la raison pour ça. C'est un petit détail que vous n'avez pas remarqué et qui ne vient pas l'esprit. Qui fait la différence. Peut-être que vos conditions, pour des raisons quelconques, ne vont pas avec cette plante-là. Ah, voilà. Ça peut arriver quand même.
Thérèse Foran, peut-on conserver l'arbre au papillon d'une année à l'autre en zone 4B? Merci de tes excellents conseils.
Merci, Thérèse. Thérèse, elle voyageait avec moi, je ne sais pas combien de fois. Ah, oh, fait longtemps qu'on se connaît, hein? Mais en tout cas, la plante en question, l'arbre au papillon, Buddleia, est un grand arbuste d'habitude. Il est vert et naine maintenant. Hein? Et c'est un grand arbuste qui fait des fleurs super parfumées au bout des branches. Et c'est extraordinaire comme ça. C'est beau, il est dans plusieurs couleurs maintenant. pas juste bleu-violet, mais dans les rouges, les roses et blancs, etc. Donc, c'est extraordinaire à ce niveau-là. Et ça attire beaucoup de papillons. Vraiment, les papillons viennent vraiment en grand nombre. Mais la rusticité est faible. En zone, même en zone 5, c'est une plante difficile. Vous allez conserver en zone 4B. Peut-être. Théoriquement, c'est des plantes de zone 6B, à peu près, peut-être 7. Ça dépend. Oh, les marchands vont dire 5. Mais vous savez, hein, l'exagération, c'est toujours été comme acceptable, paraît-il, à certains yeux, dans la catégorie des zones de rusticité. Donc, calculer que c'est plus une zone 6 et que ça prend de protection partout au Québec, normalement. Donc, mais il faut une protection aérée, parce que cette plante-là ne tolère pas l'humidité. Elle est, vous savez, une plante de climat aride, presque désertique. C'est pas toujours évident de donner des conditions semblables au Québec, où il pleut, peut-être pas l'an dernier, mais en général, il pleut trop pour une plante qui aime ça, que ce soit sec. Mais donc, l'idéal, si vous voulez le conserver, ça serait de planter dans un endroit super bien drainé, peut-être en monticule pour assurer un excellent drainage. Ça pourrait être un facteur. D'habitude, la première année, quand on l'achète, ça va super bien. D'ailleurs, c'est un petit tuyau, hein? La façon la plus facile de cultiver l'arbre aux papillons au Québec, c'est de traiter une plante annuelle. Là, le succès est total à chaque fois. Quand vous essayez de le faire survivre, ça va moins bien, parce que ce n'est pas dans sa nature, pas au Québec. Donc, vous décidez que vous allez conserver. Vous l'avez depuis l'an dernier. Vous allez donc, à l'automne, couper les branches les plus longues. Là, c'est une certaine longueur là, au sol. Couvrez avec en masse un paillis léger, comme par exemple les aiguilles de pin ou quelque chose comme ça qui laisse passer un peu d'air. Mais il va couper le gros du vent. Et au printemps, attendez patiemment, parce que vraiment, ça donne signe de vie, ça prend du temps. Et si jamais il y a de la repousse au printemps, vous avez réussi. Mais si vous n'avez pas de repousse, ça n'a pas marché. Ça va toujours en plante, à la limite, à moins qu'un jour, quelqu'un commence à faire des hybridations en vue d'augmenter la rusticité. Mais à date, je n'ai pas vu ça. Personne ne sent, vous savez, on est tellement dans le nord, au Québec, que personne ne se soucie de nous dans le grand monde de l'horticulture. C'est comme ça, on n'existait pas. Donc, pour l'instant, au moins, je n'ai jamais entendu parler qui travaillait pour se démêler la rusticité de cette plante-là.
Maintenant, Anne-Marie Gélina a deux questions. Je vais commencer par la première. On va y répondre. Ensuite, on ira avec la deuxième. Elle dit, j'ai lu qu'il était plus efficace d'envoyer la solution d'algues liquides sur les feuilles des semis plutôt que d'arroser le sol. Qu'en pensez-vous?
Il y a assez de vrai là-dedans. Mais quand même, ça peut aller par les racines aussi. C'est que c'est des minéraux là-dedans, pourquoi la plante n'aurait pas évolué de façon à l'utiliser? Donc oui, les plantes vont souvent absorber les minéraux par le feuille. Mais pas toutes les plantes. Je donne un exemple de plantes qui absorbent mal. C'est la famille des choux. Vous avez vu que vos choux sont comme couvertes d'une pruine blanchâtre qui donne leur coloration bleutée. Mais ça ne laisse pas l'engrais entrer. Donc il faut quand même dire, OK, d'accord, ça ne marche pas certaines plantes et pas pour d'autres. Donc, vraiment, c'est un facteur à tenir compte. Et pour la plupart des plantes, on peut vaporiser sur le feuillage. Et l'avantage, dans des semis, OK, on va retourner dans ce sens. Dans le cas des semis, je ne vois pas une grosse différence entre vaporiser sur le feuillage ou arroser le terreau. Parce que la plante va en profiter dans les deux cas. Là où ça devient intéressant de vaporiser spécifiquement un engrais sur le feuillage d'une plante, c'est lorsqu'elle est à l'extérieur, entre d'autres végétaux. Supposons que vos poireaux sont maintenant en plein terre et que vous jugez que ces poireaux-là ont besoin de plus d'engrais. Et ils poussent sur ce côté, des je ne sais pas quoi, des tomates. Parce que si vous arrosez le sol, qui va profiter de l'engrais? Il y a de bonnes chances que ce soit la tomate. Une grosse plante agressive, La canette est une mauvaise herbe, vous savez, dans son pays d'origine. Une grosse plante qui va prendre tout ce qu'elle est capable. Elle est voleuse, la tomate. Et donc, cette plante-là va aller chercher les minéraux plus vite que le poireau. Donc, dans un cas comme ça, si vous vaporisez directement le feuillage, l'engrais irait sur les feuilles de votre poireau et pas sur la tomate à côté. Mais dans une semis, je pense que les deux s'équivalent, mais on peut faire l'un ou l'autre.
Ouais. Et l'autre, on est rendu à l'autre question, Larry?
Oui.
OK, d'accord. Et donc, la deuxième question de Anne-Marie Gélina. Pourquoi certaines graines comme le persil doivent germer dans la noirceur et d'autres avec la lumière? Des graines dans le sol ne voient pas la lumière?
OK. Ça, c'est une question plus complexe que vous pensez, mais fascinant. Moi, je trouve ça intéressant de penser à ça. C'est que les graines arrivent de quelque part. Elles viennent par le vent, sont déposées par des insectes, mais en général, elles aboutissent en surface. Donc, je ne ferai jamais là. Mais c'est risqué de rester en surface. Les graines tombent à l'automne d'habitude, doivent rester là jusqu'au printemps, puis pendant l'hiver, ils passent un mulot, ils passent un insecte, ils grugent à gauche et à droite, puis paf, la graine n'est plus là. Donc, c'est plus sécuritaire pour la graine d'être enterrée. Donc, les graines ont plein de méthodes pour se faire enterrer, non, sans face. Les graines vont carrément se tirer dans le sol. C'est incroyable. Et certaines graines sont plus habituées à ça que d'autres, ou plus efficaces que d'autres. Et enfin, il y a un groupe, en général, les plantes qui ont besoin de soleil pour germer, des graines qui ont besoin de soleil pour germer, en fait, ce sont des petites graines et des plantes qui poussent vite. Donc, ces graines-là, on ne les couvre même pas quand on fait la soleil. Les graines moyennes finissent par se recouvrir un peu, mais à peine. Mais ils restent, veulent pas. Le soleil passe. Dans les premières, disons, 2-3 mm au sol au moins, le soleil va traverser. Donc, il y a quand même le soleil là. Donc, une plante qui est couverte dans les graines sont couvertes, légèrement couvertes de terre, vont quand même avoir le soleil, recevoir du soleil, les rayons. Ceux qui sont en profondeur, c'est ceux-là qui, en général, ont horreur de soleil. Pour des raisons quelconques dans son écologie, la plante aime s'être enterrée complètement et les graines sont enterrées et germent normalement quand il fait noir seulement. Je ne sais pas dans le cas de persil, mais souvent les plantes qui ont besoin d'être à la noirceur pour bien germer, sont des plantes qui poussent à l'ombre dans la nature. Donc, on comprend qu'on voit une certaine lien là. Mais l'idéal, de toute façon, c'est intéressant à penser. L'important de savoir pour chaque plante sa préférence. Légèrement enterrée, c'est comme 80% des plantes. Il y a peut-être 15% qui ont besoin de soleil pour germer et il y a un petit 5% qui préfèrent être à la noirceur. Puis c'est bon de savoir lequel.
Gisèle Séguin. J'ai un coin de plate-bande où l'eau a tendance à se ramasser après les grosses pluies comme on a ces temps-ci. J'aimerais y planter quelque chose de comestible. Que puis-je mettre qui accepterait d'avoir des racines humides occasionnellement?
Là, il faudrait que je pense à ça. Beaucoup de plantes peuvent tolérer ça, bien sûr. C'est pas anormal. Mais quelle plante comestible? Écoutez, je prends note de ça, comestible, humidité, et je vais voir si je peux trouver une réponse la semaine prochaine, parce que ça me gagne pas l'esprit, mais je suis certain qu'il y en a. Voilà.
Sarah Pilon qui revient avec une deuxième question. Je viens de recevoir mes bulbes de lys, entre parenthèses, Beijing Moon, Big Smile et Mille Simo. Et j'ai aussi acheté des vivaces qui étaient dehors en centre-jardin. Quand dois-je les planter?
Ça dépend des conditions chez vous. Si le sol est assez asséché, il faut y planter les bulbes maintenant, il n'y a pas de problème. Mais si c'est encore détrempé, vous savez, dans certains coins de mon terrain, il y a encore de la neige. Là. Donc, ce n'est pas fini. fini l'hiver. Donc, elle va. Peu de gel en début de ça arrive dans la nature. Par contre, les plantes sont trop avancées pour la saison et les jeunes feuilles ne sont pas résistantes au gel. En tout cas, comment dire, je ne sais pas exactement ça. Mais les jeunes feuilles en train de se développer, qui étaient habituées à la chaleur d'une serre, ne sont pas acclimatées à la fraîcheur et du gel du printemps. Donc, si les plantes sont tout petites, à peine, bougent à peine, plantez-les sans problème. Si c'est gros et fourni de feuilles, beaucoup plus que la végétation autour, ce sera une bonne idée de les mettre à l'abri, au moins la nuit, pour quelque temps. Par contre, si je regarde la météo, ça semble plutôt encourageant pour les prochaines semaines, mais c'est quand même un risque de planter très de bonne heure des vivaces qui ont été forcées, je passe à forçage, des vivaces qui ont été forcées en serre, parce qu'elles ne sont pas vraiment adaptées à la saison actuelle. J'entends rien de Michel, c'est vrai qu'il y a.
En fait, Larry, on dirait que j'ai des soucis avec toi. Je te perds au niveau des communications, donc ça se peut des fois qu'il y ait difficulté à se comprendre. Il y a un petit décalage entre ce que tu fais et ce que moi j'ai chez moi. C'est rare que ça arrive, mais ça a l'air qu'un matin, ça a décidé que ça faisait ça.
OK.
Donc, on va y aller avec la question de Cathy Caruter. Bonjour. L'air que j'ai récolté l'été dernier est très odorante et c'est rouge à l'intérieur. Quand je l'épluche, c'est normal ou elle n'est pas bonne?
Alors, j'essaie de comprendre l'air. C'est pour pas te laisser un mot. Ouais.
On va y aller avec une autre question. La question n'était pas claire. Ouais. Désolé. France Cloutier, maintenant. Elle t'a dit bonjour. Elle dit, mes géraniums de l'été dernier sont encore très fleuris. Dois-je les tailler avant de les remettre dans mes boîtes à fleurs?
Ah, ben ça, ça devient question à vous de choisir. C'est que, c'est sûr que c'est toujours plate de couper des fleurs. Hein? Moi, j'aime pas ça faire ça. Mais c'est sûr que s'ils commencent à pousser un peu croche, un peu trop longue, etc., vous êtes mieux de le corriger parce que ça n'irait pas mieux si vous le faites pas. Donc, ce serait peut-être une bonne chose à faire, à vous de décider. Et si vous faites maintenant, ça devrait refleurir dans un peu 6 semaines. Donc, ça va être pas mal bon pour le début de la floraison, au début de l'été. Ça va donner des plants plus compacts avec une floraison plus dense, si vous le faites maintenant.
Prochaine question maintenant de Agnès Morin-Chartrand. Il y a quelques années, j'ai planté de l'ail sauvage à partir de la bulbe. Va-t-elle repousser si je l'accueille cette année?
OK. L'ail sauvage, l'ail indigène, ça ne repousse pas comme ça. C'est pas... comment dirais-je? Il faut toujours laisser les petits plants en sol. Ça se divise au pied. Il faut prélever quelques plants. Vous ne dites pas combien d'années. Souvent, c'est comme 7 ans et plus avant de pouvoir commencer à récolter. C'est très, très lent. Ce n'est pas une plante qui va vite. Ça prend beaucoup de temps avant de faire une colonie assez forte pour faire de la récolte. Peut-être que vous pouvez récolter légèrement, mais il y a quelques années, ça me semble pas assez longtemps, parce qu'elle est quand même un peu lente, cette plante-là, à s'établir.
Prochaine question de Mihaela Andronescu. Bonjour et merci pour votre présence hebdomadaire pour nous aider à jardiner plus intelligemment. Pendant l'hiver, j'ai gardé mes canards dans leur pot dans le garage. Sachant qu'il s'agit d'une plante tropicale, pensez-vous que maintenant, je pourrais sortir mes pots dehors et commencer à les arroser pour qu'elles reprennent vie.
OK. Alors, nous arrivons à une période de l'année où c'est quasiment possible. C'est que ce n'aime pas le foie, la canard. Et donc, vous ne voulez pas l'exposer au foie. Et les nuits, évidemment, peuvent être encore froides. Vous ne dites pas où vous êtes OK. Mais les jours, parce qu'on pourrait passer une semaine, ça a l'air, on va avoir de très belles journées. Donc, moi, je dirais, moi, c'est 12 degrés. Si on annonce 12 degrés la nuit, rentrez vos plantes. Sortez-les le jour quand il fait assez chaud. Donc, c'est pas que 12 degrés est mortel. À 11 degrés, les plantes ne mourront pas. Mais ça va les ralentir. Ça ne sert à rien de les ralentir. Donc, vous avez plutôt, si vous voyez qu'on annonce 12 degrés au moins la nuit, rentrez. Si on a dit, ça va être 14, 15, pas de problème. Et même le jour, si dans une semaine, on a des journées où on annonce 8 ou 12, 8 ou 10, pour rentrer les plantes pour la journée. Comme ça, vous allez acclimater vos plantes sans les faire souffrir de foie.
Larry, la dame qui demandait, qui parlait de son ail sauvage dans le bulbe, elle a spécifié un peu plus loin qu'elle demeure dans la région d'Ottawa.
C'est bon. Parfait. Merci.
Aiden Knight écrit « La rediffusion de l'émission de la semaine dernière sur Podbean ne dure que 10 minutes. » Je pense que ça va être une question plus pour Marlène, ça, oui. Qui est, elle, à la technique de Sekaya. Je vais voir un peu plus loin. Ah oui, elle repose une question. Elle dit « J'ai une épiprenum qui a enroulé ses racines aériennes sur un tuteur de bois flotté qui commence à être trop court. Dois-je changer le tuteur et détacher la racine aérienne ou est-ce préférable d'ajouter un deuxième tuteur derrière le premier? »
Ah, ça, c'est toujours une question embêtante. J'ai souvent eu ce problème-là de ma vie parce que moi, j'aime ça, les plantes grimpantes, surtout à l'intérieur où je trouve que ça cache les murs-là. Plâtre, c'est pas beau, le plâtre. Ça prend de la verdure. Et souvent, je les fais monter sur des... Jamais de bois flotté dans mon camp, mais d'autres, sur des plaques de bois ou sur des planches, des choses semblables. J'ai souvent fait ça. Et ces plantes-là adorent ça. Épipomnum, on appelle souvent potos. Mais des potos, des philodendrons, il y en a plus de ces plantes-là qui adorent grimper. On les utilise souvent en panier suspendu. Vous devrez les voir sur une planche ou de bois flatté. Ça adore ça. Les racines sortent, collent. Ah, la plante est heureuse, ça ne se peut pas. Mais ça arrive en haut. Vous avez mis peut-être une... Vous n'avez pas de bois flatté. Moi, on a un morceau de bois flatté mesuré à 60 cm de haut. Donc, la plante est heureuse, elle grimpe, et tout d'un coup, oh non, elle est rendue en haut. Donc, que faire? OK. On peut toujours essayer de rajouter un autre morceau, plus haut, et le fixer solidement. Il faut que ce soit solide, bien sûr. À vous de décider comment faire ça, parce que c'est possible, mais c'est peut-être compliqué. Et sans détacher le reste par accident. Et donc, le plan va continuer de grimper, mais on va finir par arriver en haut de ça aussi. Donc, à un moment donné, il faut décider qu'est-ce qu'on fait. Quand la plante arrive en haut du tuteur, et que même, logiquement, on ne pourrait même plus rajouter d'autres, c'est trop. Dans un cas semblable, on va présumer qu'il y a plusieurs tiges. Donc, peut-être qu'il y a 5 tiges qui montent. 2 sont complètement en haut, les autres s'en viennent. Quand ça arrive en haut, on peut laisser dépasser un peu, mais couper ces 2 tiges-là plus bas que les autres et enlever-les avec la racine aérienne, planter-les à la base, contre le bois. Elles vont donc, peu à peu, se fixer sur le bois et recommencer à monter. Pendant ce temps-là, les 3 autres tiges qui étaient déjà là et qui n'étaient pas complètement hauts vont monter, vont atteindre le haut. Quand ça arrive, coupez-les, plantez-les à la base et les 2 premières tiges vont être en train d'arriver vers le haut. Et vous aurez comme une espèce de cycle qui fait en sorte que vous aurez toujours une planche ou une morceau de bois qui est bien couverte. Et comme ça, vous pouvez avoir faire ça pendant des années de temps, sans problème.
On va y aller maintenant avec une question de Sarah Pilon-Lavoie. J'ai lu qu'on devait tailler la clématite Jack Manil tôt au printemps, soit en mars. Est-ce qu'il est trop tard pour le faire?
Pas soit en mars, ça doit être plus quelqu'un de la France ou un plat semblable. Parce qu'au mois de mars, au Québec, on ne peut pas parler de taille clématite. Pas parce qu'on ne peut pas, mais souvent dans la neige, ou si on n'est pas dans la neige, on est dans le boue. C'est vraiment trop tôt pour s'aventurer très loin dans le jardin. Mais oui, vous pouvez le faire maintenant. N'oubliez pas que ça va ralentir la floraison, ça va fleurir plus tard, parce que le Jack Manil est une de ces variétés de clématite qui fait deux floraisons, en fond. Une première tôt, puis une deuxième plus tard. Ben, la première va être éliminée par cette taille-là, mais la deuxième va avoir lieu naturellement. Donc, c'est juste, il faut juste le savoir. Ça va retarder ça, parce qu'à un moment donné, ça arrive qu'il y ait beaucoup trop de vieilles branches avec les branches vivantes, puis une bonne taille s'impose. Par contre, vous n'êtes pas obligé de faire ça tous les ans. Cette plante-là, vous pouvez la laisser pousser des années. Et c'est vraiment quand vous voyez, oh, là, elle commence vraiment à être trop un mélange entre tiges dénudées et tiges encore en vie. Ce serait temps de le tailler. Là, on peut le faire. Et c'est une plante quand même, le clématite Jack Manil est quand même une variété facile. Ça répond bien à la taille, oui. Maintenant, mais ça va retrouver la floraison. Voilà.
Sylvain Poisson. À chaque année, j'ai du mildiou dans mes tomates. J'ai changé de terre il y a 2 ans, mais le problème revient. Le centre de jardin me conseille du Bordeaux, mais ça ne règle rien. Est-ce que je peux éviter ce problème?
Oui, le mildiou de la tomate est une maladie qui n'est pas transportée par le terreau. Donc, déjà, dès le départ, votre idée de le changer de place, ça marche pour beaucoup de maladies. Mais pas pour cette maladie-là, parce que ce n'est pas une maladie qui hiverne dans le sol. Ce qui hiverne, c'est les plantes contaminées. Donc, ça ne change rien à ce niveau-là. Le Bordeaux, c'est des plantes comestibles. En tout cas, moi, je ne le ferais pas. Le Bordeaux, quand même, c'est des... C'est considéré biologique. Mais biologique ne veut pas dire nécessairement complètement sécuritaire. Donc, c'est quand même... Comment ça, c'est ça? Le métal en question, le cuivre. Je ne sais pas, c'est pas fort. Pourquoi vous changez, soit je ne sais pas, des variétés résistantes? Pourquoi vous battre avec des variétés qui sont malades? Il existe maintenant, depuis des années maintenant, des variétés qui sont résistantes à la maladie. Moi, sur la page Jardin paresseux, j'ai fait une page où il y a comme 50 variétés qui sont résistantes. Donc, ce n'est pas la peine de se battre, des fois, avec une maladie quand c'est si facile à régler en plantant la bonne variété. Parce que c'est une question génétique. Hein? Les plantes sont sensibles à la maladie ou ne le sont pas. C'est écrit dans leurs gènes. Et on ne peut pas faire grand-chose pour régler ça. Mais si vous changez de variété, alors ça règle votre problème. Donc, moi, je suggère ça. Peut-être que c'est trop tard cette année-ci, mais l'an prochain. Vous pouvez aussi traiter, quand même, si vous voulez vraiment essayer quelque chose, vaporiser tout simplement du lait en poudre ou lait dérivé dans l'eau, 5 parties d'eau, sur le feuillage tout le long de l'été, et surtout sur les feuilles. Ça peut aider parce que ça rend le feuillage plus alcaline et les spores germent moins bien. Et aussi, comme la maladie en général, le mildiou de la tomate est en fait un mildiou de pomme de terre aussi. C'est la même maladie qui paraissent deux plantes différentes. Mais en général, elle est transportée par les pommes de terre. Donc, si vous avez gardé des pommes de terre de l'an dernier pour replanter, c'est souvent ça la source de la maladie. Idéalement, on ne repique que des pommes de terre de semences qui sont certifiées libres de maladies pour éviter ce problème-là.
Louisette Renaud, j'aimerais m'installer des fluorescents pour mes cactus l'hiver car manque de lumière. Quelle variété de fluorescent, blanc froid ou blanc chaud, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Ça, c'est la première question. Elle en aura une deuxième dès que tu auras terminé celle-là.
Et d'accord. Bon, écoutez, pour cette question-là, les cactus l'hiver, le besoin de lumière n'est pas si grand que ça parce qu'elles sont normalement en dormance. On parle de cactus désertique, je présume. Parce que si c'est des cactus, le style cactus de Pâques ou de Noël, qui sont des cactus épiphytes qui croissent à l'année, la réponse serait un peu différente. Mais ceux qui sont épineuses, c'est des plantes vraiment qui sont pas mal en dormance l'hiver. Donc, l'idéal, je ne m'occuperai pas trop de la lumière à cette saison-là. Je m'occuperai de la fraîcheur. Parce que ce qu'il faut essayer de faire vivre la plante, c'est un hiver frais, à froid. La plupart de ces cactus viennent des climats pas tropicaux, mais où l'hiver est au moins frais. Et d'ailleurs, dans beaucoup de cas, ça tombe en bas de zéro, des fois. Donc, idéalement, ce serait trouver un coin qui est frais. Tu peux être à la noirceur, mais qui est frais. Je parle de frais, je parle de 4, 5, 6, 7 degrés la nuit. Et dans ce cas-là, vous ne les arrosez pas de l'hiver ou seulement si c'est vraiment, vraiment desséché. Et vous reprenez au mois de mars. Et au mois de mars, on a l'avantage que le soleil est de retour. Donc, on n'a pas besoin de penser fluorescente. Parce que normalement, j'aurais dû vous dire que le blanc foin est intéressant pour stimuler la floraison. Et pour cette plante-là, non, ça n'aurait pas d'effet vraiment, parce que c'est vraiment les saisons qui déterminent. Et un détail très important, il faut savoir que les cactus ne fleurissent qu'à maturité. Certains cactus désertiques fleurissent à un an ou deux ans, trois ans. Oh, c'est bien. D'autres, c'est au bout de 20, 30, 50 ans. Fait que, dans certains cas, il faut être drôlement patient pour faire fleurir un cactus.
Et donc, la deuxième question de Louisette Renault. Pouvez-vous nous nommer des variétés de tomates rouges résistantes aux maladies?
Oh, il y en a tellement. Encore, je vous suggère d'aller sur le site web, parce que je ne retiens pas tout. Je vous donne un exemple. Il y a toute une série. On va faire un léger historique. Il y a peut-être 12, 13 ans, quelque chose comme ça. Le mildiou de la tomate, qui est maintenant la maladie la plus à craindre chez le tomate au Québec. Cette maladie-là, qui a toujours existé, mais qui était relativement mineure, de nouvelles souches sont arrivées et beaucoup plus dévastateurs. Donc, on avait tout d'un coup un problème et on n'était pas prêt. Là, on avait cultivé pendant 40 ans de vérité qui était susceptible à la maladie, mais comme c'est une maladie mineure, on ne s'est pas occupé de ça. Et les vérités patrimoniales sont sensibles à cette maladie-là en très bonne partie. Donc, les gens qui continuent de cultiver ces vérités-là ont des ennuis terribles avec la maladie. Mais en même temps, il y a toujours des hybrideurs qui travaillent, pas trop à travers le monde, à améliorer des plantes. La plupart sont des gens qui travaillent chez eux, qui croisent des tomates à gauche et à droite, qui s'amusent, et des fois, ils tombent sur des bonnes variétés. Il y a un monsieur aux États-Unis qui est en train de travailler sur des tomates rouges, justement. Puis il a libéré une variété qui s'appelle Mountain Magic, parce qu'il était dans l'état, je pense, de New Hampshire, des choses comme ça. En tout cas, Mountain Magic, c'est un état avec plein de montagnes. Et pas peu de coïncidence, quand la maladie est sortie, il se trouve qu'elle avait hérité d'excellents gènes contre la maladie. Donc, tout d'un coup, Mountain Magic, qui n'aurait probablement jamais été populaire, parce qu'il y a tellement de nouvelles tomates tous les ans, est devenu l'une des tomates les plus populaires auprès des producteurs, parce qu'il marche très bien. On n'a pas besoin de penser à la maladie. Donc, monsieur a continué de croiser, puis a développé d'autres variétés Mountain. Donc, vous voyez le mot Mountain, qui veut dire montagne en anglais. C'est des vérités résistantes. Le plus passant rouge. Mais c'est juste un exemple. Il y en a plein, plein, plein d'autres. Encore, je vous suggère d'aller sur le site web, j'en ai pas reçu, et chercher tomates résistantes aux maladies. Vous allez trouver des tonnes de plantes.
Martine Gagnon. En taillant mes rosiers, entre parenthèses, Rosa rugosa, j'ai trouvé sur la plus grosse tige des boursouflures qui ressemblent à des cocons de papillons. C'est gris pâle. J'ai gratté et tout est parti en poussière. Sont-ce des champignons ou des cocons non éclos?
Ah, là, je ne pourrais pas vous répondre nécessairement. J'ai des idées, j'ai des soupçons, mais je ne peux pas vous dire exactement. Ça se peut que ce soit ça, ça se peut que ce soit autre chose aussi. Ça se peut aussi, moi, je pense, dans ma région, ça n'arrive pas, peut-être chez vous. Moi, je suis à Québec, trop fort pour ça. Mais aussi, il y a les, comment on appelle les insectes qui attrapent les autres, les mantes religieuses, qui pondent des œufs. On appelle ça un ootech. C'est une espèce de masse mousseuse qui sèche. Et ça ressemblerait ça, à ça. Donc, ça se pourrait que ce soit ça, les mantes religieuses, les œufs de mantes religieuses. Mais peu importe, c'est probablement pas très grave. Même si ça avait été un champignon, pouf, si ça disparaît comme ça, c'est fini. Je ne m'inquiéterais pas trop. Mais c'est quand même intéressant. Moi, j'aurais aimé ça. Personnellement, j'aurais assez voir qu'est-ce que c'était. Moi, j'aime ça, des choses comme ça. Ça me stimule des questions semblables.
Dernière question, probablement. Dorothée Beauséjour. Mon faux cyprès a fini l'hiver avec des branches plus brunes que vertes. Premier hiver qu'il fait ça. Les branches du bas cachées sous la neige sont toutes vertes. Quoi faire? Il a 13 ans et je suis en zone 5B. Merci pour votre belle émission.
OK, ben voilà. OK, on va vous dire que le cyprès, le faux cyprès d'Alaska, est une plante de zone 5B. En fait, c'est une plante de zone 6B. La même histoire. J'explique comment ça arrive. C'est qu'il y a un décalage entre les zones américaines et les zones canadiennes, de peu près une zone. Donc, quand un marchand reçoit une plante de zone 6B, il ne serait pas capable de la vendre. Mais l'étiquette vient des États-Unis. C'est marqué 5B. En gros, c'est 5B. Attends, il sait très bien que c'est un 6B. Mais pourquoi le changer? Il ne se vendra pas. Fait que vous avez de la chance de garder cette plante-là 13 ans de temps. Excellent. Mais la plante n'est pas vraiment assez rustique. À un moment donné, le foie finit par l'attraper. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, c'est attendre un peu plus, mais faites tomber, des fois, c'est juste passer vos mains devant, vous faites tomber les aiguilles qui sont mortes. Et quand la plante est comme un peu dépouillée, allez voir ces branches qui sont complètement mortes. Et elle est coupée avec un sécateur. Et là, attendre. La plante peut régénérer, passablement. Mais est-ce qu'elle va être encore belle? Ça, c'est une autre histoire. Mais c'est le risque quand on plante des plantes hors zone. Hein? C'est pas toujours facile de les récupérer quand ça va mal. Et à un moment donné, il faut penser qu'une plante hors zone, normalement, à un moment donné, on va avoir une bonne hiver qui nuit. Et cet hiver, moi, j'ai un pin chez moi qui est là depuis des années, qui a vraiment souffert cette année-ci. Voilà, c'est le cas. Bon, écoutez, on est à la fin de l'émission. Je vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. Encore merci beaucoup à Michel Bédard, qui s'est occupé, comme toujours, de technique et de poser des questions, à Marlène Bordelot et l'équipe de CKIA pour contrôler l'émission pour ce poste-là. Moi-même, je m'appelle Larry Hodgson. Je vous retrouve la semaine prochaine. Donc, bonjour à tout le monde. Et n'oubliez pas de visiter mon site ou le site de tout le monde, dans le fond, www.jordaniparosseux.com. Bye-bye.
Bye-bye tout le monde.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
Bonjour, ici Boris Chassagne. Pour découvrir l'actualité locale d'un bout à l'autre du pays, écoutez l'émission Point de vue. On vous présente des reportages, portraits et entrevues réalisés par nos journalistes postés dans des provinces et territoires canadiens, sociétés, arts, culture, environnement, affaires publiques, l'information locale destinée à un auditoire national. Mercredi 17h à CKIA 88.3 et CKIAFM.org.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Espace Région de Québec, un organisme en prévention de la violence faite aux enfants, célèbre ses 30 ans cette année. Pour cette occasion, vous êtes invité à une fête familiale le dimanche 5 juin au domaine de Maizeray. plusieurs prix de présence et activités vous attendent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer pour les familles. Pour connaître les détails, rendez-vous sur la page Facebook d'Espace Région Québec.
Pour tout savoir sur la programmation de CKIA, pour connaître ses activités, pour être au courant des événements culturels et communautaires de Québec, visitez